Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Ma curiosité, voilà. Non, ça suffit.
Ah, ça peut suffire ?
Oui, je suis curieuse, donc je me pose toujours plein de questions et j'essaye d'y répondre.
Bonjour, en compagnie de Jean-François Hélas, nous accompagnons dans la rue Chloé Michaud, professeure à l'École normale supérieure de Lyon. Chloé Michaud est intervenue dans le cadre de la 29e semaine de l'astronomie, organisée par la Société d'astronomie de Nantes, sur le thème « Volcanisme des planètes telluriques ».
D'abord, j'ai commencé à faire des études dans toutes les sciences. J'aimais bien le côté quantification. J'aimais beaucoup les maths, ça me plaisait bien, parce que c'était logique et facile, mais j'ai toujours été attirée par les sciences naturelles, la Terre. Donc je me suis au départ plutôt orientée vers la biologie. Et finalement, ça ne m'a pas trop plu. Et je suis arrivée à l'ENS Lyon. Et là, j'étais dans un département de géologie. Et toutes ces sciences de la Terre quantitatives, ça m'a énormément plu. Et puis ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait sur les volcans, donc Claude Jopard, et qui m'a montré toute l'étendue des recherches qu'on pouvait faire sur l'étude des volcans dans le contexte de l'évolution thermique des planètes. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que j'ai foncé dans mes recherches. Voilà.
Donc c'est une rencontre avec une personnalité.
Oui, c'est un peu un cheminement. Et puis avec une rencontre, oui. C'était mon directeur de thèse. Voilà.
Les contours de la conférence.
Je m'intéresse aux planètes telluriques. Je vais déjà répertorier un petit peu tout ce qu'on observe, toutes les formes de volcanisme qu'on observe sur la Terre. Et puis après, je vais aller voir les autres planètes telluriques. Donc les planètes telluriques, c'est les planètes rocheuses. Donc Mars, Mercure, Vénus et la Terre. Et puis je vais parler de la Lune, qui est le satellite rocheux de la Terre.
On reste dans le système solaire.
On reste dans le système solaire, oui.
Ça se passe aussi sur d'autres planètes lointaines du système solaire ?
Tout à fait, complètement. C'est justement un petit peu le cadre dans lequel évolue mes recherches. C'est d'essayer de trouver des phénomènes globaux, de comprendre des phénomènes globaux qui peuvent se décliner de manière différente selon les conditions environnementales sur les différentes planètes. Donc c'est de trouver un petit peu les similitudes et les différences et les causes de ces différences dans les phénomènes volcaniques. Donc tout à fait, on peut dire que le volcanisme, ça doit être quelque chose de global, d'ubiquiste, mais qui peut se décliner de manière différente selon les conditions et qu'il y en a sans doute sur les exoplanètes. Il y en a certainement.
On va s'intéresser à notre planète, la Terre.
Le volcanisme sur Terre, il est surtout déterminé par la tectonique des plaques qui sont mobiles à la surface de la Terre et qui génèrent du volcanisme, soit par la remontée des roches du manteau au niveau des zones de dorsale, ce qui entraîne leur fusion, soit par la plongée en subduction de plaques enrichies en eau qui vont libérer leur eau. L'eau va être libérée dans le manteau et ce qui va permettre la fusion du manteau dans les zones de subduction. Donc ça, c'est le volcanisme lié à la tectonique des plaques sur Terre. Mais il y a aussi un autre type de volcanisme qui est un volcanisme de point chaud lié aussi à la remontée de roches mantelliques dans des courants de convection et qui n'est pas lié à la tectonique des plaques. Et ça, on le retrouve sur les autres planètes.
C'est un système de thermorégulation.
Pourquoi ça fonctionne ? C'est ça la question ?
Pourquoi ?
C'est parce que le manteau des planètes et de la Terre contient des éléments radioactifs, comme l'uranium, le thorium et le potassium, qui en se désintégrant génèrent une forte quantité de chaleur. Et donc, au cours du temps, la désintégration des éléments radioactifs libère de la chaleur qui permet de maintenir le manteau à une certaine température. Voilà, donc le manteau est chaud et lors de ces mouvements de convection, lors de la remontée des roches mantéliques, bah, ça lui permet de fondre. Je suis un peu essoufflée. Waouh ! Je lève la tête. Superbe ! Qu'est-ce que c'est ?
Alors là, nous sommes au niveau de la cour du château des Ducs de Bretagne.
Ouais. Magnifique. Surtout de nuit, éclairé, illuminé. C'est joli.
Il y a un rapport avec la vie sur Terre ?
Peut-être. Peut-être, sans doute. Pour qu'il y ait de la vie, il faut une certaine quantité d'énergie, il faut de l'eau. Et on peut trouver cette quantité d'énergie dans l'apport de chaleur généré par le volcanisme sous-marin, par exemple. Donc ça a pu être une zone où la vie a pu se développer. Donc oui, il faut une planète vivante pour qu'il y ait la vie, quoi. Sans doute. Ah, voilà du monde qui arrive.
Il marche vite.
Ah.
On essaye ?
Ouais, on essaye. Ouais.
Mais c'est pas gagné. Je suis avec Chloé Michaud, qui est l'invité de la Société d'Astronomie de Nantes.
D'accord.
Et alors, une question. Est-ce que vous pouvez me citer une planète dans le système solaire ?
D'accord, une planète.
Où les volcans sont encore actifs, mais on ne les a pas vus lors de son observation par la sonde Magellan. C'est très précis comme question.
Oula.
Je suis des planètes.
Oh ben non, mais là, les volcans sur les planètes, j'avoue que...
C'est Magellan, bah c'est Mars, non ? C'est pas ça ? C'est pas sur Mars qu'ils
non,
ont
non, 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 non. Pas Saturne non plus. Non, non,
non. Voilà.
Bah, tu écoutes mieux que moi.
Merci.
Merci pour ça.
Bah,
comme ça, moi, on va rentrer avec des informations.
Chez vous, dans votre château, là.
Avec des sites en plus. Merci beaucoup.
Merci.
Très bonne soirée à vous.
Au revoir. Merci. Il y a une explication sur le fait que certaines planètes soient toujours en activité, d'autres plus.
C'est principalement dû à l'état thermique de leur manteau et à leur taille. Plus la planète est grosse, plus elle contient des éléments radioactifs, et plus ceux-ci, en se désintégrant, produisent de la chaleur, et donc plus elle est chaude à l'heure actuelle. Donc plus il y a de chances d'avoir du volcanisme. Donc sur Vénus, ce serait vraiment fascinant s'il n'y avait pas de volcanisme. Il y en a tout à fait probablement. On en a des preuves, mais on n'a pas vu clairement. On en a des preuves. Mais ça serait vraiment inattendu s'il n'y avait pas de volcanisme. Parce qu'elle est aussi grosse que la Terre.
400 degrés, c'est un peu chaud.
Il fait super chaud, ouais. Il fait super chaud. C'est pour ça qu'on n'y va pas sur Vénus. Pas beaucoup.
Comment on peut dire qu'on est sûr en utilisant dans sa phrase « probablement »
Ben ça, c'est la science. Hein. On n'est jamais sûr de rien, en fait. J'ai dit ça ?
Oui.
Ça ne m'étonne pas.
Qu'est-ce qui fait que vous soyez probablement sûr ?
Ben, j'ai des preuves, des évidences.
Comment ça se détecte ? Quels sont les outils ?
On a analysé la composition de l'atmosphère de Vénus. Donc on a trouvé la présence de dioxyde de soufre qui augmente assez rapidement puis diminue. Donc c'est une présence qui n'est pas constante mais qui est transitoire. Donc une libération transitoire de dioxyde de soufre, c'est probablement dû à de l'activité volcanique, mais il y a aussi d'autres hypothèses que je ne connais pas bien. Et puis des caméras thermiques, on a vu qu'on avait aussi des zones qui étaient périodiquement chaudes et qui font penser à des coulées de lave. Mais c'est pareil, on n'a pas eu de photos de l'avancement de la coulée de lave. Mes recherches, elles sont plus dans la modélisation des phénomènes volcaniques et puis de l'évolution thermique des planètes. Donc je me suis pas mal intéressée à la formation et à la détection des réservoirs magmatiques fossiles sur les planètes, sur la Lune, sur Mars, en comparant des modèles d'écoulement de magma en profondeur sur la Terre et sur les planètes, et les formes que génèrent ces écoulements. Donc ça, c'était une partie de mes recherches. Et puis là, je m'intéresse aux liens entre les cratères d'impact et les dépressions causées par ces cratères et la remontée du magma sous ces cratères. Parce qu'on voit sur plusieurs corps telluriques, hein, sur la Lune, c'est assez clair, et sur Mercure, on le voit aussi, que l'activité magmatique et volcanique est souvent concentrée au niveau des cratères d'impact. Et donc là, j'essaye de regarder ce lien. J'ai montré que la dépression causée par un cratère pouvait engendrer l'ascension du magma présent en profondeur. Voilà, donc je m'intéresse à cette thématique-là. Et là, dans le cadre de la mission InSight, qui est actuellement sur Mars, qui a atterri le 26 novembre 2018, eh bien, je m'intéresse à l'évolution thermique de Mars et à la formation de la croûte de Mars et à la dichotomie martienne.
Puis qu'est-ce que c'est que la dichotomie ?
Mars présente une dichotomie assez frappante entre l'hémisphère nord, qui est plat et beaucoup plus bas en altitude que l'hémisphère sud. Et ça, on ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Et donc mes recherches portent là-dessus, à savoir, est-ce que la croûte nord a une composition différente de la croûte sud, ou bien est-ce que ce sont de la même composition, mais une croûte sud beaucoup plus épaisse, puisque finalement le volcanisme forme la croûte. Ça, j'ai oublié de le dire. Ce qui forme la croûte des planètes, c'est le volcanisme et le magmatisme. Donc le volcanisme est à l'origine de la composition des croûtes planétaires. Donc mon travail porte sur la formation et l'évolution des croûtes planétaires. Voilà, donc j'ai fait un petit peu des raccourcis. Là.
Vous travaillez avec des instruments à distance. Il y a eu des expéditions lunaires qui ont ramené des petites choses.
Ben oui, mais je ne travaille pas sur l'analyse des échantillons. J'ai des collègues qui travaillent dessus. Mais bon, moi je m'intéresse à connaître leur composition et à essayer dans les modèles de retrouver ces compositions. Mais je ne fais pas moi-même d'expérience sur la chimie et la minéralogie de ces échantillons.
Il n'y a pas de connexion possible avec vos recherches ?
Ah si, complètement. Par exemple, j'essaye de comprendre comment s'est formée initialement la croûte lunaire, qui est une croûte primaire issue d'un océan de magma. Et on a des échantillons de cette croûte. Ils sont très, très particuliers. Les roches des terres hautes, elles sont en majorité composées d'un plagioclase qu'on appelle anorthite, très 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 enrichi à 95%, 90-95% en anorthite. Et ça, c'est difficile de l'expliquer. Et donc j'essaye par des modèles de formation de croûte d'expliquer ces compositions. Il y a forcément des liens, hein. C'est des observations qu'on doit expliquer avec des modèles.
Et vous êtes nombreux, nombreuses à travailler sur le sujet ?
Dans le monde, on est quand même du monde, moins que sur la Terre. Hein, y a quand même moins de monde, mais quand même c'est une communauté assez grande. Enfin, ça dépend avec quoi on compare. C'est beaucoup moins qu'en biologie ou aux grosses expériences de physique, mais il y a quand même du monde. Je ne sais pas trop.
Je ne sais pas. C'est pour savoir si vous êtes en compétition.
Un petit peu, mais il y a de la place pour tout le monde.
C'est quoi le but ultime ?
C'est mieux comprendre la Terre, finalement. Parce que les planètes telluriques, en particulier la Lune, Mars, montrent des surfaces très anciennes qui ont 3 à 4 milliards d'années, ce que ne montre pas la Terre. La Terre, à cause de la tectonique des plaques, elle a perdu un petit peu la mémoire de tout ce qui s'est passé dans ces premiers 500 millions d'années. Et donc regarder les autres planètes, ça nous permet de comprendre un petit peu les processus primitifs qui ont conduit à la formation des croûtes des planètes. Et ça inclut le volcanisme et le magmatisme. La tectonique des plaques, elle a commencé sans doute durant ce premier milliard d'années de la Terre. Et on ne sait pas comment elle a commencé, pourquoi il y a la tectonique des plaques que sur la Terre. On n'observe pas sur Vénus, ni sur Mars, ni sur Mercure et la Lune. Et puis bien sûr, comment la vie aussi est arrivée sur la Terre.
Mais si, pour comprendre quelque chose, on s'appuie sur quelque chose, il n'y a pas d'équivalent?
Ben justement, une explication doit expliquer pourquoi il y en a ou pourquoi il n'y en a pas. Qu'est-ce qui a conduit à la tectonique des plaques doit expliquer pourquoi on ne l'observe pas ailleurs, si vous me suivez. On se demande s'il a pu y avoir de la tectonique des plaques sur Mars dans le passé. Ça, c'est une question qu'on se pose, s'il a pu y en avoir il y a plus de 3,5 milliards d'années. Et on se demande aussi, forcément, sur Vénus, s'il a pu y avoir de la tectonique des plaques aussi, dans un lointain passé. Voilà, a priori, on pense que sur Vénus, comme la planète est sèche et que l'eau permettrait de localiser la déformation, et donc d'avoir des limites de plaques le long de ces déformations localisées qu'il n'y en aurait pas eu, mais bon, certaines personnes proposent qu'il y avait une tectonique des plaques sur Vénus dans le passé aussi. C'est aussi des questions qu'on se pose.
On a fait un peu le tour, votre conférence.
Je vais parler peut-être plus des formes de volcanisme, donc explosifs, effusifs, des choses comme ça. Là, je vous ai surtout parlé des processus globaux, convection dans le manteau, dynamique interne.
Merci à Chloé Michaud, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, à Jean-François Hélas, membre de la Société d'astronomie de Nantes, et à
Béatrice
Alan
pour leur libre participation à ce programme réalisé avec le concours de la SAN. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience d'interview en marchant?
Bon, c'est sympa, ça décontracte. Non, c'est sympathique, ouais, j'aime bien quand vous interviewez les gens au passage.